Alors, on peut se dire, bon, bah d'accord, il y a une borne. On peut pas avoir les meilleurs programmes, le programme le plus court. On se dit, on va chercher un programme satisfaisant. Alors, il y a la borne supérieure qui est banale, c'est-à-dire qui est grosso modo dans la même complexité de la tâche qu'on essaie que ça n'intéresse pas, parce que la complexité d'une tâche à programmer est énorme et intraitable. Un exemple, hein, vous voyez, si vous dites que votre tâche est celle de faire la... Hein, les entiers se codifiant sous 32 bits. La table qui représente cette tâche est une table de 2 puissance 64 entrées. D'accord ? 2 puissance 64 entrées, c'est 10 puissance 20 à peu près. Hein ? Donc 10 puissance 20 des milliards, de milliards, de milliards. Donc cette table, c'est l'addition. Vous l'avez spécifié de façon tabulaire et vous avez une table de 10 puissance 20. Donc, si vous dites, bah, réalisez-moi un programme qui réalise cette table, c'est-à-dire que pour deux nombres, on calcule la somme. Bah, si vous voulez la spécification formelle, elle est énorme. Donc, elle est intraitable. Mais sur n'importe quelle tâche quelconque hein, qu'un programme doit faire, pour avoir une bonne spécification, il faut réécrire cette table. D'accord ? Imaginez-vous une table qui représente tous les états que vous pouvez mettre dans Windows. Ça, c'est une spécification de Windows. D'accord. La spécification de Windows fait 40 millions de lignes de code. Sa spécification, conçue comme ça, est de milliards de bits. Donc, c'est quoi? C'est un programme qui représente cette table et pour chaque entrée, vous sort, va chercher dans la table la sortie. Alors, très état. Alors, on a dit, ben, cette table n'est pas la table. Effectivement, le programme est intéressant parce qu'il ne représente pas cette table, parce que il fait ça par un calcul, comme fait d'ailleurs des programmes. On ne le fait pas parce qu'on a des tables. L'addition, justement, on l'a fait par un calcul. On ne l'a fait pas avec la table des arguments et la table du résultat. Donc, l'intéressant est de dire, bon, bah, quel est le programme le plus petit? Bon, il n'y est pas. Alors, quelle est la borne supérieure? C'est la table. Ça ne nous intéresse pas. Est-ce qu'il y a une borne plus intéressante? C'était à peu près... Quelle est, pas la longueur du programme le plus petit, mais la longueur d'un programme, enfin, raisonnablement, enfin, un programme qu'on va écrire, qu'on arrive à l'écrire. Eh ben, même cela n'est pas, la théorie algorithmique, même cela n'est pas calculable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner une borne raisonnable. Là je simplifie vraiment, hein. Donc. Alors, je répète tout ça. Pour le logiciel, c'est très simple. La tâche qu'un logiciel doit accomplir n'est pas caractérisée de façon traitable, ne peut pas être caractérisée de façon traitable. Deux, la complexité de cette tâche, c'est-à-dire la longueur du plus petit programme qui la réalise, ne peut pas être vue. Ne peut pas être estimée. D'accord ? Donc, des estimations rapprochées ne peuvent pas être faites, soit incalculables, enfin intraitables aussi. Donc, même la rationalité limitée est une difficulté. Parce qu'on n'a pas de satisfait ici. On ne peut pas fixer un satisfait ici. Hein, pour les gens qui savent, les délais, donc, d'un développement ne peuvent pas être estimés a priori. N'a pas de sens de définir la productivité d'un programmeur. La productivité absolue ne peut pas être déterminée de façon objective. Et puis, prouver qu'un programme est conforme à une spécification, ben, intraitable. Ça peut pas se faire, sans plus. Donc, nous sommes dans une catastrophe absolument absolue. Hein? Ben. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il se passe que, effectivement, les jeunes du génie logiciel, grosso modo, sont partagés en deux camps. Il y a les gens dits de processus, justement les gens, comme je vous ai dit, qui estiment que produire un logiciel, bah, ces gens-là, ils présentent, eux, des méthodes d'estimation qui sont fondées sur des données historiques. C'est-à-dire, ils se disent, bon, dans les passés, ça s'est passé comme ça, dans les futurs, ça va se passer comme ça. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas caractériser la tâche du passé et on se ressemble ou ça parie à la tâche du passé. Donc, on est foutu. Et d'ailleurs, les catastrophes que je vous ai dit au début sont l'évidence probante, enfin, l'évidence effective, hein, qu'effectivement on y arrive très difficilement. Alors, pourquoi aujourd'hui on arrive à éviter ces catastrophes? C'est pas parce qu'on sait plus, mais parce que les gens... Donc, on a des successions de petits projets, de façon... Et on s'arrête, de façon à se dire, bah, si on voit que ça marche pas, bon, on arrête tout de suite. De façon à... Les dégâts en termes de coûts, en termes de même d'échecs, les anticiper. Dans le passé, on faisait des très grands projets, enfin comme celui de la banque dont je vous ai parlé. Aujourd'hui, on ne ferait plus un truc comme ça, parce qu'on sait qu'on va se casser la figure. Donc, on fait des petits projets, l'un après l'autre, pour faire quelque chose. Et on s'arrête si on voit que ça ne va pas. Donc, effectivement, on limite les dégâts, mais le fond, le problème reste, enfin, il n'est pas résolu. Alors, il y a une autre... Enfin... Donc il y a les gens du processus, et puis il y a des gens qui estiment correctement que l'activité de programmation, c'est une activité de problem solving, de solution de problèmes. Donc ils donnent, ils recherchent des tools, des heuristiques, des méthodes pour la faire mieux, c'est-à-dire de faire ce que je viens de dire. Donc on sait que relativement, on est plus capable qu'avant de faire des logiciels, mais on ne sait pas quantifier ça de façon absolue. Parce qu'on retombe dans le résultat de la théorie algorithmique dont je vous ai parlé. Alors, maintenant, je me pose, c'est comment est-ce possible soumettre ça au rapport de production capitalistique? Parce que, quand même, le problème se pose. Pourquoi les capitalistes sont aussi fous de le soumettre à essayer de faire du profit, soit un truc comme ça? Donc, je reprends le chemin marxien classique, hein, il y a de l'argent qui sert à acheter des marchandises, dont la force de travail, tout ça est mis, et puis d'autres, tout ça est mis dans la production, enfin, il y a un miracle qui se produit, il y a une autre marchandise qui sort de ce miracle, et cette marchandise est vendue sur le marché, et la différence entre l'argent qu'on met avant et l'argent qu'on met après, ça s'appelle le profit ou le plus. Donc, Marx parle en termes de, vous savez, de soumission réelle, de soumission formelle. Alors, la soumission formelle, c'est celle du capitalisme marchand. Le capitalisme marchand, bah, effectivement, supposons, il anticipe de l'argent, c'est-à-dire il achète des matières premières, des outils éventuellement, et il achète de la force de travail. Puis il laisse faire, effectivement, et récupère à la fin une marchandise qui vend. La production. Ça, c'est, d'un point de vue historique, l'image des premières manufactures, enfin, la production artisanale. Et la soumission réelle est celle avec les capitalistes organisateurs, enfin, celui qui organise, qui rentre dans la production. Ben, c'est la production fordiste, à la fin. Hein. C'est l'apothéose, la production fordiste, c'est l'apothéose de cette activité. Alors, ça veut dire quoi qu'il organise? Ça veut dire que, en fait, la force de travail est divisée en trois groupes. Hein. Il y a des gens qui conçoivent des méthodes, des techniques de production. Il y a des gens qui exécutent ces techniques, enfin les machines qui vont avec, etc., exécutent, sont rattachées à ces machines, et puis il y a le management qui est là pour contrôler que ça se passe, tout ça. Donc, le capitaliste organisateur rentre dans les processus de production, et il achète pas seulement la force de travail, mais aussi le commandement sous cette force de travail. Ça, c'est un point essentiel. Chose qui ne faisait pas les capitalistes marchands. Et ça s'appelle la soumission réelle. Parce que il dit à la force de travail ce qu'il doit faire. Enfin, il dit, il fait dire, disons. D'une certaine façon, dans les contrats, on dit incomplet, hein, les économistes, parce que il n'est pas spécifié ce qu'il doit faire. Que j'ai l'autorité de te le dire. D'accord? Je ne spécifie pas exactement ce que tu dois faire, je spécifie que, enfin dans un certain cadre, oui, mais je spécifie que tu m'obéis. Alors, donc, tout cela marche si les salariés acceptent l'hétérodirection. Hein. Donc, ces mesures-là, ces figures dans la soumission réelle, pas d'accord, enfin, il y a des gens qui ont tendance à les plaquer sous des phénomènes historiques, à dire oui, effectivement, la soumission formelle, c'était au début, hein, de la production capitalistique, et effectivement, la production fordiste, et même après, c'est l'apothéose de la soumission réelle. Les deux choses sont vraies, mais ces deux figures, on les voit tout le temps. quand il y a des phénomènes, par exemple, d'outsourcing, d'expulsion, d'externalisation, vous avez un phénomène dans lequel de la soumission réelle, on passe à la soumission formelle, parce que on fait sortir du contrôle, on le donne à d'autres, le contrôle. Si je fais sortir la lavoration de certaines pièces de mon automobile, je commande plus le travail, je me mets dans une relation marchande avec d'autres qui, eux, commanderont du travail, etc., etc. Donc, si vous voulez, cette histoire est récurrente. Et je dirais, a été interprétée par les économistes modernes, enfin, surtout les économistes de la firme, des coûts de transaction, hein, par le marché et la hiérarchie, hein, qu'on peut... ou en alternative, le contrat de vente, les contrats de travail. Le contrat de vente spécifie exactement ce qu'il faut faire. Le contrat de travail, bah, ne spécifie pas, il est incomplet, comme on dit. Alors, ce jeu-là, est-ce que ce jeu-là, ce jeu de la soumission réelle, soumission formelle, marché, hiérarchie, contrat de vente, contrat de travail, comment s'applique la question du logiciel? Eh bien, disons qu'en fait, il ne s'applique pas, ni l'un ni l'autre. Donc, on est là aussi dans une impasse importante. En fait, Simon, enfin l'article de Simon, c'est fameux, hein, qui est quand même très clair là-dessus, qui dit oui, le contrat de travail est adapté lorsqu'on ne sait pas a priori le cours des actions qu'il faut dicter aux salariés. Donc on dit un contrat ouvert dans un certain cadre pendant